and the Carolina Panthers win in overtime.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro du Poundcast, l'émission du compte Twitter NFL Panthers FR. C'est à nouveau Guillaume au micro, et comme pour la première émission, je ne suis pas seul puisqu'on retrouve à mes côtés Thomas. Bonsoir Thomas.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Mathieu, bonsoir Guillaume.
Et on retrouve donc, comme vous avez pu le comprendre, également Mathieu. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu?
Salut à tous, salut Thomas, salut Guillaume, ouais, ça va très bien.
Donc au programme de cette deuxième émission, on va bien évidemment revenir principalement sur la draft qui s'est déroulée en fin de semaine dernière, draft au cours de laquelle les Panthers ont sélectionné 7 joueurs. On va pouvoir détailler tous ces choix, revenir un petit peu sur l'impact qu'ils pourraient avoir la saison prochaine, sachant que, on va en parler, mais ce sont 7 choix uniquement défensifs, c'est la première fois de l'histoire, il me semble qu'on a une équipe qui choisit 100% de ses joueurs en défense. Donc, première draft pour Matt Rhule en tant que head coach des Panthers, et déjà, il marque l'histoire, donc espérons que ce soit bon signe pour la suite. Donc, on va démarrer là-dessus. Avant cela, on va revenir sur une petite info qui vous aura sûrement pas échappé. Ça s'est tombé quelques jours avant la draft, il me semble que ça devait être début de semaine dernière. Prolongation de contrat de Christian McCaffrey et ce nouveau contrat, donc une extension de 4 ans, 64 millions de dollars, ce qui en moyenne, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais c'est une moyenne de 16 millions de dollars par an. C'est tout simplement le record maintenant pour un running back. Mathieu, Thomas, cette extension, qu'est-ce que vous en pensez? C'est logique, c'est mérité, il fallait la faire, oui, non?
C'est logique, et puis même je pense que c'est un avis partagé par une grande partie de la communauté des Panthers, des fans des Panthers, c'est que on avait besoin en fait de voir arriver cette extension après tous les départs. Comme on a dit là dans le podcast précédent, on a eu des départs de Kikli, de Newton, de Olsen, et on voulait vraiment en fait la prolongation de McCaffrey, parce que sinon ça aurait été vraiment un coup de massue supplémentaire de le voir par exemple trailer. Totalement rassuré, ouais, de cette extension. Après, on sait que les contrats sur les coureurs, c'est amené à, des fois, ça va pas toujours à son terme, mais, personnellement, je suis un peu rassuré par ce mouvement, pour ancrer de nouveau l'attaque.
On dit qu'il faut pas payer les running backs à ce point-là, sur des longs contrats comme ça en plus, qui fait en plus qu'il devient, du coup, donc le running back le mieux payé de NFL. Mais on cesse aussi de, on dit sans arrêt qu'il est plus qu'un running back, donc je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte. Et moi je suis satisfait de la signature, et voilà, il fallait quand même garder une figure dans la franchise.
Ouais, effectivement, comme vous le dites, c'est vrai que après tous les départs, je pense que les fans avaient besoin d'avoir cette signature, d'avoir un joueur sur qui ils peuvent s'ancrer et tout simplement avoir une raison de venir au stade, hein, parce que c'est vrai que exit Newton, exit Kikli, les résultats qui sont pas forcément ceux attendus depuis 2 ans en termes de victoire, c'est vrai que là au moins la présence de McCaffrey assure le spectacle. Concernant le contrat, effectivement, comme tu disais Mathieu, on reproche beaucoup d'avoir payé un running back. Foncièrement, ce qu'il faut voir, donc c'est une extension de 4 ans qui a une petite particularité, c'est qu'elle inclut la 5e année en option que pouvait exercer l'équipe, c'est-à-dire que contractuellement, Christian McCaffrey est encore sous contrat jusqu'en 2026, il me semble, puisqu'il lui reste donc son année de contrat, la dernière, là, qui va jouer la saison prochaine. La 5e année en option qui s'active automatiquement puisqu'elle est considérée comme retenue dans le contrat, et ensuite donc les quatre années de contrat qui démarrent derrière. Donc c'est, on a encore 6 années de Christian McCaffrey au moins sur le papier, à moins évidemment que l'équipe s'en sépare. Si on regarde au niveau de spot track et de la structure du contrat, en fait, c'est ni plus ni moins la 4e année de contrat qui était prévue, la 5e année en option, et derrière un franchise tag qui est appliqué. Et si derrière ces trois années-là, les Panthers décident de se séparer de Christian McCaffrey, il y a, je crois, 8 millions de dead cap seulement. Donc, ouais. Donc c'est pas non plus un contrat duquel les Panthers ne peuvent pas sortir. Ils sont, entre guillemets, bloqués dedans pendant 3 ans. Ils sont pas bloqués pendant 6 ans avec ce contrat-là.
Moi, ça me fait pas forcément si peur que ça. Je pense qu'en plus, on va voir aussi une nouvelle utilisation de McCaffrey à partir de la saison prochaine et du nouveau coaching staff. Donc peut-être qu'on va plus lui donner 97% des snaps aussi. Et ça, même sur la, voilà, sur sa longévité, ça va certainement jouer. Donc si on l'utilise plus intelligemment, on peut le faire durer. Ça me fait pas si peur que ça.
Voilà ce qu'on pouvait dire à peu près pour la prolongation de contrat de Christian McCaffrey. Je pense qu'on va pouvoir passer maintenant à ce qui s'est déroulé donc jeudi et vendredi dernier, à savoir les trois premiers tours de la draft. Trois premiers tours de draft donc où on attendait donc déjà donc dans la nuit de jeudi à vendredi le premier tour. Je pense que 90% des mock drafts qu'on a pu voir depuis un mois laissaient deviner que les Panthers allaient se retrouver avec soit Derrick Brown, le defensive tackle d'Auburn, soit Isaiah Simmons, le linebacker slash safety de Clemson. Pas de surprise, puisque c'est effectivement le scénario qui s'est produit. Et les Panthers ont choisi le lineman de Auburn avec le septième choix. Rassuré, content, déçu, quelle a été votre réaction à l'annonce de ce choix?
C'est un peu le choix entre guillemets de sécurité, comme on en parlait un peu entre nous et comme on parlait aussi en réponse sur Twitter. C'est-à-dire quand on voyait les choix passer, puis on voyait Simmons du coup qui commençait aussi un peu à descendre, arriver vers nous, puis on s'est dit on savait que ça allait jouer entre Simmons et Brown. Après voilà, Simmons c'est pareil, c'est un peu un couteau suisse défensif. Peut-être après, comme on a beaucoup de besoins en défense. Je comprends totalement le choix du front office avec un peu de recul de choisir Derrick Brown pour ancrer vraiment cette position de defensive tackle à côté de K1 Short, qui est vraiment quelque chose d'important, parce que l'an dernier, en termes de sac, on était bon, mais en termes de défense contre la course, c'était calamiteux. Donc on a vraiment cette volonté maintenant de... Comment dire, le choix rassurant et logique.
Ouais, tout à fait d'accord avec Thomas. Après, on a eu un peu... on y était pas mal à être déçu sur le coup, parce que voilà, finalement le pick Simon c'est plus sexy que le pick Brown, même si moi j'ai vu en tout cas sur nos échanges sur Twitter avec la communauté, il y a pas eu tout le monde était assez satisfait. C'était plutôt du côté États-Unis que ça a énormément râlé, j'ai trouvé. Finalement moi je pense que c'est un bon pick, et puis on peut comprendre la décision de Rule et son staff, hein, il y a pas que lui, de vouloir construire en commençant par les lignes. C'est quelque chose qui se dit beaucoup et qui se tient. Et voilà, je pense que les deux, Simmons et Brown, peuvent avoir une très bonne carrière en NFL. Et voilà, il a fallu qu'on fasse un choix. On a décidé de commencer par les lignes et c'est pour ça qu'on a choisi Brown. Et voilà, moi je suis satisfait et je pense qu'il est prêt pour être un excellent starter.
Oui, comme tu le disais, on en avait parlé un petit peu en amont de la draft. Il y a énormément de points d'interrogation sur l'équipe et principalement la défense avant cette draft. Commencer par un choix entre guillemets sûr, si tant est que ça existe, avec un joueur qui était top 5 en universitaire, indépendamment de la position, en termes d'impact et de talent, c'est vrai que c'était vraiment un monstre très très dominant et très impressionnant. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, aussi bien le fait de construire par les lignes et de prendre un pic safe, c'est ça se comprend totalement après coup.
Puis même en fait avec la communication qu'on voyait autour des Panthers, tous les comptes de fans, par exemple il y a cette photo de Derrick Brown, je crois que c'était au Pro Day de Auburn avec Mark Turney. On sentait qu'il y avait déjà un peu un coup de foudre entre guillemets du front office pour Derrick Brown. On savait un peu entre guillemets à quoi s'attendre. Pour ce premier tour.
Ouais, je crois qu'il y avait eu un parallèle, là. Je repense à la photo que tu mentionnes, il y avait eu un parallèle avec... il y avait quasiment la même photo l'an dernier avec Brian Burns, et quelques jours, semaines plus tard, Brian Burns était le, le choix annoncé par les Panthers, donc c'est vrai que le parallèle entre les deux était, était assez sympa.
Et on a eu chaud parce que cette année, on a eu la même photo avec Justin Herbert aussi.
En effet. nos amis de, des Chargers, je vais essayer de dire de San Diego, nous ont évité d'avoir ce choix à faire. Deuxième tour de la draft la nuit suivante. Et là, donc, on parlait de construire par les lignes. Deuxième choix sur la ligne défensive, 38e pick, Yetur Grosmatos, defensive end de Penn State. C'est un bon pick, Grosmatos.
Moi, je pense que c'est un bon pick, même si peut-être, ouais, il y a forcément plus de travail sur Grosmatos que sur Brown. Oublie que c'est un second tour. Quand on y pense, déjà qu'on perd Mario Addison aussi pendant l'intersaison. Ça permet de rajouter un defensive end assez costaud, assez puissant, qui va certainement mieux, qui se colle certainement mieux à la 4-3 que peut-être Burns de l'autre côté et encore plus que les autres defensive ends qu'on a pour l'instant sur le roster. Et quand on y pense, ça nous donne une ligne Grosmatos, Short, Brown, Burns, ça peut faire peur. La seule incertitude, c'est que la moitié de la ligne est rookie, quoi.
Ouais, c'est ça, on a un gros potentiel sur les lignes défensives et je rejoins totalement l'avis de Mathieu. C'est un pic, on a beaucoup parlé possiblement d'un reach justement sur le defensive end de Baylor, James Lynch je crois. Et finalement, il était, bon, bien sûr, il était encore disponible, mais je pense que c'est un choix très intéressant pour nous. Donc voilà, c'est un choix encore une fois qui marque vraiment l'intérêt, comme disait Guillaume, de renforcer les lignes, surtout la ligne défensive ici. J'aime beaucoup le potentiel, franchement, je suis curieux de voir ce que ça va donner l'an prochain et surtout l'année d'après, je pense.
Oui, parce que effectivement, alors encore plus Grosmatos que Derrick Brown, c'est un joueur qui va très probablement avoir besoin d'une année d'apprentissage en NFL. Il est un gros potentiel, il a comme beaucoup le disent, tous les atouts, les attributs pour être un très bon defensive end dans NFL, mais ce sera pas dès la saison prochaine forcément. Il va peut-être avoir besoin d'un petit peu de temps pour s'adapter et pour vraiment répondre au potentiel que les scouts des Panthers ont pu voir en lui. On a eu un autre choix au deuxième tour puisque les Panthers ont fait un petit trade en fin de deuxième tour pour obtenir le 64e choix. Ils ont envoyé leur choix du troisième tour plus le choix numéro 148 qui est le choix récupéré par le trade de Kyle Allen. Donc voilà, ils ont mis à profit ce pic bonus pour monter de quelques places et récupérer un safety qui était pas très très connu avant le combine et qui a fait une grosse impression. Le safety Jeremy Chin qui évoluait à Southern Illinois en D2 universitaire. Alors c'est ça qui pose un peu question, c'est le niveau auquel il évoluait, mais en termes de physique et d'athlétisme et de profil, c'est un petit Isaiah Simmons, on va dire, en termes de côté hybride. Safety, linebacker, nickel. Donc voilà, on avait regretté un petit peu le non-choix de Simmons au premier tour. On a un profil un petit peu similaire, on n'est pas encore là au niveau du talent. Mais voilà, Jeremy Chin, qu'est-ce que vous avez pensé de ce choix-là?
Moi, je suis conquis, je dirais, par le, comment dire, son côté athlétique. J'aime beaucoup les joueurs comme ça. J'aime bien les joueurs qui sont capables de jouer aussi un peu partout. Et du coup, suite à ça, j'ai regardé un peu ses highlights, on va dire. Et j'aime bien l'intensité qu'il met sur le terrain. Et là, voilà, il se donne un max. Et c'est aussi ce que cherche Rule. Hein. J'ai bien compris qu'il allait... Enfin, lui, il voulait uniquement des joueurs qui pouvaient se donner à 110%. Et voilà, après, la seule incertitude que j'ai, moi, de ce côté, c'est déjà que ce soit un joueur de D2. Et de voir là comment il va réussir à s'adapter à la NFL et aussi où est-ce qu'on va le positionner principalement. Donc il y a cette grosse question, je pense que c'est un pic un peu risqué mais qui peut avoir un très gros retour sur investissement.
Ouais, je suis d'accord avec l'avis de Mathieu et enfin j'ajouterais aussi que quand on prend un, tout ce qui va être defensive back à la draft, dans mon ressenti personnel, j'ai l'impression que c'est un peu parfois les piques entre guillemets énigmes, à savoir si ils auront besoin de et d'énormément de temps entre guillemets pour s'adapter et prendre leur vrai potentiel au poste de defensive back ou même par exemple linebacker. Mais bon, l'an prochain par exemple, j'en attends, j'ai pas envie de dire rien du tout, mais il va être rookie dans une défense contre la passe qui a un peu qui a perdu James Bradbury, donc qui a perdu peut-être un peu en niveau, mais pareil, dans 2 ans, je suis curieux de voir l'évolution de Jeremy Chinn.
Oui, c'est vrai que de toute façon, ça c'est un petit peu le thème récurrent des choix effectués par les Panthers lors de cette draft. C'est des prospects qui ont un gros potentiel. On en parlait en termes de côté athlétique, ils l'ont tous. Par contre, c'est vrai qu'il faut pas forcément s'attendre à beaucoup dès l'année prochaine, mais peut-être plutôt viser dans 2 ans pour vraiment savoir ce qu'on a eu au niveau de ce joueur-là et savoir si c'était un bon pic ou pas quand les Panthers l'ont sélectionné. Voilà qui clôture donc ce premier, ce deuxième et même ce troisième tour. On marque une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour revenir sur les 4 derniers choix des Panthers lors de cette draft. Voilà donc pour ce qui est du quatrième tour, on avait un choix, le numéro 113, et il y a un poste qui était assez important, un manque assez criant de la défense. Tu parlais tout à l'heure du départ de James Bradbury, mais il fallait trouver un remplaçant. Les Panthers ont jeté leur dévolu sur Troy Pride Jr., le cornerback de Notre-Dame, un cornerback très très rapide, plutôt bon plaqueur, mais comme pour les choix d'avant, ça va être à développer, à voir ce que ça va donner, d'autant plus que il pourrait être projeté directement starter à l'opposé de Dante Jackson.
Oui, puis comme tu dis, vraiment un cornerback au profil avec une grande vitesse, donc du coup on peut se demander si c'est pas un peu pour éviter de se reprendre une performance qu'on avait eue de Julio Jones, qui nous avait fait voir de toutes les couleurs, pas cette saison, mais la saison d'avant. Et vraiment, on avait senti un gros manque de défense, de rapidité dans la défense. Enfin, c'est un peu la première chose qui me vient en tête avec ce choix. Après, voilà, pareil, comme dit Guillaume, un prospect intéressant à développer.
Ensuite, au cinquième tour, un safety qui est un petit peu particulier lui aussi, c'est Kenny Robinson, safety qui sort de West Virginia, pardon, mais qui avait la particularité d'évoluer il y a quelques mois en XFL, et donc il était a priori il a été élu dans la meilleure équipe défensive de XFL. Alors je crois que c'est Mathieu qui nous avait vanté les qualités des defensive backs de XFL dans le premier podcast. Est-ce que t'es rassuré par ce choix, inquiet, ou qu'est-ce que t'as pensé de ce pick?
En fait, déjà sur le côté XFL, ça me fait pas aussi peur qu'un joueur d'XFL classique, dans le sens où c'est pas un joueur qui a pas réussi à aller en NFL et qui est parti en XFL parce qu'il avait pas le niveau. C'est un joueur qui est parti d'universitaire et qui s'est retrouvé directement en XFL parce que il y avait que ça à ce moment-là, en quelque sorte. Si déjà il est au niveau, on va dire, pour être dans la meilleure défense de XFL, alors qu'il a aucune expérience d'NFL et qu'il est encore hyper rookie, moi je trouve pas ça dramatique. Et voilà, en fait, je pense qu'il faut plus voir cette expérience de XFL comme un côté positif pour lui en tant que rookie, plutôt que comme on a l'habitude de voir en côté négatif, en pensant que c'est une ligue pour les joueurs qui n'ont pas réussi à tenir en NFL. Mais sinon, moi, ce qui m'a fait le plus peur de son côté, c'est que finalement, s'il a fait le switch entre l'universitaire et la XFL, c'est parce qu'il s'est fait virer de West Virginia. Donc du coup, côté comportement, etc., c'est pas hyper rassurant. En fait, s'il s'est fait virer parce qu'il... entre des problèmes familiaux et la saison de football pendant laquelle il voulait tout donner, en fait, c'était un de ses proches qui faisait les cours à sa place. Il avait les cours en ligne. Et en gros, il s'est fait pincer et la fac lui a pas laissé de deuxième chance, donc il s'est fait virer. Et l'option, c'était soit de retourner à la fac dans une autre école, mais du coup, il perdait un an, soit d'aller directement en XFL, gagner de l'argent, parce qu'il avait besoin d'argent pour sa famille, et espérer aller en NFL après. Quand on voit toute la situation, bon, c'est assez grave de tricher comme ça à ce point-là, quoi, parce qu'il lui faisait vraiment aucun cours. Je pense pas qu'il ait un mauvais fond. C'est pas le pic qui me fait le plus peur, on va dire.
Oui, puis pour revenir en fait sur ce choix, quand on a pu le voir en fait en direct et avec un peu de recul, on a peut-être eu un peu peur en fait des médias en fait qui nous ont fait ressortir un peu justement toute cette affaire avec West Virginia, pourquoi il s'était fait, le fait qu'il s'était fait virer, mais on n'avait pas toujours plus, on savait pas trop le pourquoi du comment, puis dans les gros titres, ça fait peut-être un peu peur, on a peur en fait d'avoir un joueur avec un comportement plus que douteux qui va causer des problèmes dans l'équipe. Et c'est typiquement pas le genre de joueur qu'on veut dans une équipe. Mais, d'ailleurs pour ceux qui veulent le lire, il a publié un très bon article, une très bonne lettre ouverte sur le Player Tribune. Et en fait, on vous conseille totalement de la lire pour comprendre les raisons en fait de pourquoi il s'est fait virer de West Virginia. Et vous verrez qu'il n'a clairement pas un mauvais fond et que ce n'est pas du tout un perturbateur de vestiaire.
Non, et c'est moi, des quelques vidéos que j'ai pu voir... De XFL et même de sa première saison à West Virginia, c'était plutôt des actions intéressantes, donc alors il sera peut-être pas en place pour un rôle de titulaire, mais en tant que special team, il a plutôt une bonne lecture de balle, de trajectoire, et donc à ce niveau-là, ça peut être, je pense que ça peut être une petite surprise, une agréable surprise en tout cas, surtout quand après les impressions, la première impression un peu négative qu'on a eue à l'annonce de ce choix. Arrivé au sixième tour, il fallait bien qu'on ait la caution Baylor et la caution Matt Rhule. Tu mentionnais, je crois que c'était Thomas tout à l'heure qui mentionnait James Lynch, qu'on n'a pas sélectionné. Mathieu, en tant que président du fan club Curtis Samuel, tu as dû avoir une petite frayeur au deuxième tour en voyant chuter Denzel Mims, le receveur de Baylor, avec les rumeurs de trade potentiel et d'équipes qui appelaient pour se renseigner autour de la disponibilité de Curtis Samuel. Eh bien, ni Mims ni Lynch n'ont été sélectionnés, mais leur compère de ligne défensive Brevion Roy, defensive tackle, un vrai pur nose tackle, a été sélectionné par les Panthers au sixième tour. Alors arrivé à ce moment-là de la draft, on cherche plutôt de la profondeur hein, et de la rotation. Là, on a un joueur qui a un très bon premier pas. Par contre, un joueur qui est vraiment typique nose tackle et qui peut pas switcher sur un defensive end 3-4 par exemple. Il sera vraiment pur nose tackle à ce niveau-là.
On n'a pas eu James Lynch, mais on a eu Roy, puis comme tu dis, voilà, un peu typique nose tackle. Bon, à voir comment il sera utilisé. Du coup, ça laisse peut-être un peu moins de choix à l'utilisation, mais on verra bien.
Et donc, septième tour, et donc le dernier choix des Panthers dans cette draft, un autre cornerback, Stan Thomas Oliver III, qui sortait de la fac de Florida International. Sa petite particularité à lui, c'est que c'est un ancien receveur reconverti cornerback. Donc, il a les qualités du receveur, à savoir plutôt des bonnes mains, une bonne lecture des alignements pré-snap. Par contre, c'est un joueur qui, encore une fois, on va se répéter, mais manque d'expérience, a besoin de temps, et voilà, c'est pas non plus un joueur qu'on attend à un niveau de titulaire. Dans les années qui viennent, on me demande qu'à être agréablement surpris, mais a priori c'est plutôt un joueur de special team et de rotation.
C'est un sixième tour, faut pas oublier, et il était pas non plus dans une fac hyper bonne, donc ouais, il y a beaucoup de questions autour de lui, on verra bien.
En parlant de questions, on en avait une justement de Alex, qui demandait s'il y avait eu des des bonnes pioches potentielles chez les joueurs non draftés. Au niveau des joueurs récupérés par les Panthers via ce biais-là, bon, il y en a une quinzaine, alors je vais peut-être pas tous vous les lister. Il y a deux noms qui sortent un petit peu du lot. Il y a Jordan Mack, linebacker de Virginia, que beaucoup peuvent, enfin, beaucoup pensent qu'il peut être plutôt une bonne surprise pour les Panthers. Le deuxième, c'est le receveur d'Arkansas State, Omar Bayless. Pareil, un nom que, alors je vais pas mentir, c'est un nom qu'on connaissait pas avant cette draft, mais voilà, de plusieurs retours, plusieurs articles sur lui, et il pourrait surprendre, et pourquoi pas réussir à gratter une place dans le roster, alors qu'il y a déjà quand même beaucoup de receveurs actuellement. Donc c'est peut-être les deux noms qu'on va surveiller le plus.
Ouais, moi j'ai pas forcément, au contraire, pas forcément d'attente sur ce groupe de joueurs non draftés. Les UTFA, c'est vraiment la loterie, quoi. On peut pas oui. trop savoir en avance, donc s'ils nous surprennent, tant mieux, mais sinon moi je chante pas énormément d'espérance en ces joueurs là.
Très bien, mais on va surveiller ça de quand même du coin de l'œil pour voir ce qu'il advient. On récapitule vite fait les 7 choix des Panthers. Derrick Brown, defensive tackle d'Auburn, au premier tour, 7e choix. Au deuxième tour, Yetur Gross-Matos, defensive end de Penn State, et Jeremy Chin, safety de Southern Illinois. Au quatrième tour, Troy Pride Jr., le cornerback de Notre-Dame. Cinquième tour, Kenny Robinson, safety de West Virginia. Sixième tour, Brevian Roy, defensive tackle de Baylor. Et au septième tour, Stan Thomas Oliver III, cornerback de Florida International. Sur l'ensemble de cette draft, si vous deviez mettre une note sur 10 à cet ensemble de choix, combien vous mettriez?
Moi, je mettrais 8. Ça me semble honnête parce que moi, j'avais des interrogations avant cette draft-là. J'avais un peu peur que Rule se repose un petit peu trop sur ses joueurs, en quelque sorte, ces mecs de Baylor. Et j'avais aussi, je savais pas si à chaque fois on allait prendre le meilleur joueur dispo ou, voilà, j'avais pas trop de vision sur la stratégie en place pour la draft. Au final, elle est hyper cohérente. Je suis super content que la défense était à moitié vide avant la draft et ça ils savaient bien et ils sont tenus à leur choix de faire une draft défensive et je suis content de ce côté-là. C'est difficile d'évaluer. Enfin voilà, on peut pas encore deviner la réussite de tous ces joueurs, mais moi je suis content de la cohérence et on sent qu'il y a un plan en fait derrière. Même les joueurs sélectionnés suivent tous un petit peu un prototype de joueurs. Plus ou moins athlétique, plus ou moins rapide, et plus ou moins versatile même aussi. Et voilà, moi je suis content de la cohérence et des choix sélectionnés.
Moi je serais parti sur la même note, 8 sur 10, parce qu'on avait, comme dit Mathieu, on avait vraiment beaucoup de trous défensivement. Bon, bien sûr, on peut pas faire une équipe défensive avec cette tour de draft. Non, je pense qu'ils s'en sont quand même bien sortis. On a un Derrick Brown qui devrait prendre sa place sans trop de problèmes sur une défensive. On a vraiment des prospects très intéressants qui vont pouvoir être développés. On n'a pas du tout drafté de joueurs offensifs, mais ça répond totalement en fait à la stratégie qui a été appliquée avec la free agency au départ. C'est-à-dire qu'on avait surtout pris des joueurs offensifs, notamment les Robbie Anderson, puis même tous les autres joueurs, même le trade de Russell Okung. Mais du coup, ça... Je suis satisfait de cette draft parce que, comme dit Mathieu, on pouvait se demander un peu s'il n'y aurait pas un rush vers entre guillemets les ex de Baylor. Ça n'a pas du tout été le cas. Un seul joueur. Non, voilà, on va suivre ça avec beaucoup de curiosité. On aura certainement, même sûrement, des déceptions dans le lot, ça en fait partie. Mais globalement, des choix très intéressants et qui attisent un peu la curiosité, je trouve.
Ouais, je rejoins à peu près, moi, pour ma part. Je vais mettre un 7, je vais mettre juste un tout petit point de moins que vous, justement pour deux raisons. Ben, j'aurais quand même bien apprécié un petit renfort, notamment sur la ligne offensive, au poste de garde ou centre, par exemple. J'ai peur que la ligne offensive soit pas aussi solide que ce qu'il faudrait pour vraiment profiter de l'attaque, des promesses qu'apporte l'attaque à 100%. Peut-être le deuxième petit point qui me chagrine un peu, c'est le fait qu'on ait attendu le quatrième tour pour aller chercher un cornerback. Moi, personnellement, c'était le deuxième plus gros besoin après le poste de defensive lineman intérieur. Donc c'est vrai que le fait de devoir attendre le quatrième tour pour aller chercher un cornerback me chagrinait un petit peu, mais dans l'ensemble je vous rejoins, c'est une bonne draft. On annonçait une draft défensive, hein, Marty Horney, le general manager, l'avait dit. Bon, là-dessus, ils ont pas menti, et c'est vrai que bon, ben voilà, on avait bien adressé le problème de l'attaque en free agency. Là, on se sert de la draft pour reconstruire la défense. Donc voilà, maintenant il reste plus, comme vous disiez, qu'à voir ce que va donner tout ça la saison prochaine sur le terrain. Mais en l'état, ouais, de beaucoup de promesses et qui ne demande qu'à être concrétisé. On va dire un petit mot aussi quand même, justement, je parlais de lui à l'instant, de Marty Horney, le general manager, puisqu'il était il est resté en place malgré le licenciement de Ron Rivera, comme on en avait parlé lors de la première émission. Il était évoqué qu'il puisse partir après la draft. Vous pensez que c'est toujours d'actualité, vous pensez que voilà, il est parti pour rester et que on va continuer avec lui comme general manager pendant quelques temps?
Honnêtement, je le vois bien rester. À l'époque, quand Dave Gettleman est parti, on parlait un peu de Marty Horney, du coup, comme un GM intérimaire. Mais après une draft comme ça, et apparemment, il y a une assez bonne relation avec Matt Rhule qui est en train de se créer. Pourquoi pas continuer, entre guillemets, pourquoi changer maintenant?
Pour rebondir sur sa relation avec Matt Rhule, il a carrément... il a dit, je crois que c'était hier, que si on lui proposait entre un nouveau GM et Marty Horney, il choisirait Horney 10 fois. Donc je pense que c'est assez clair la position, en tout cas, de Matt Rhule sur Marty Horney. Et vu tout l'argent qu'on donne à Rhule, je pense que on le fait aussi pour écouter ses désirs. Et à mon avis, il n'y a pas de raison qu'on se sépare de Horney dans les mois, voire les années qui suivent. Même si moi, j'étais plutôt... Moi, je donnais plutôt pas mal de crédit aux rumeurs qui disaient qu'on allait s'en débarrasser après la draft. Mais si Rhule est content avec, qu'on le garde.
Globalement, c'est vrai que moi je trouverais ça bizarre de se séparer de GM juste après la draft. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est ce qui s'était passé avec Gettleman à l'époque. Mais c'est surtout que Marty Horney, sur ses dernières drafts, c'est DJ Moore il y a 2 ans, c'est Brian Burns l'année dernière, et puis Derrick Brown cette année. Sur le papier, c'est quand même des choix qui semblent s'avérer bons. Donc effectivement, il est bon dans son job, et a priori, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc je vois pas pourquoi on irait se séparer de lui maintenant. Un dernier petit point aussi pour réactualiser éventuellement notre prédiction du premier podcast où on était parti sur un nombre de 4 victoires à peu près pour les Panthers l'an prochain. Est-ce que vous pensez que cette draft change la donne, ou alors on va rester dans ces eaux-là et il n'y a pas beaucoup de changements à attendre en termes de résultats?
Non, bah dans ces eaux-là, je pense. Pour moi, on encaissera peut-être un peu moins de points, on aura peut-être un peu moins de yards à la course contre nous, mais j'ai du mal à nous voir aller gratter des victoires en plus, entre guillemets. Parce que on a récupéré des très bons joueurs, je vois pas en fait un élément qui nous permettrait d'aller gratter encore une ou deux victoires supplémentaires, un vrai game changer. Pour l'instant, l'état avec Teddy Bridgewater, avec la ligne offensive qu'on a à l'heure actuelle, non, je reste sur environ 4 victoires pour la saison prochaine.
Mais moi aussi, et je trouve que beaucoup de personnes s'enflamment un peu sur cette draft. Et alors que en pensant un peu que voilà, on est sauvé grâce à ça. Du coup, au final, dans cette draft, il y a un joueur vraiment prêt pour le niveau NFL, donc Derrick Brown. Ensuite, on a 2 deuxième tours qui vont avoir pas mal de travail et qui seront pas forcément hyper performants leur première année. Et après, tout le reste, c'est des 4e tours jusqu'à undrafted. Donc c'est pas des starters première année et c'est pas des joueurs en général qui te sauvent une équipe. Donc pour moi, ça change vraiment pas grand-chose. À part de combler les trous de la défense, mais ça en fait pas une défense élite, quoi. Et on a besoin de, pour gagner, il faut une excellente défense. Donc moi, je reste sur ma prédiction de 2 à 4 matchs. C'est hyper pessimiste, mais ouais, je pense pas qu'on a changé énormément la donne avec cette draft.
Très bien. Bon, on va rester sur ce nombre-là, et puis on va éviter de de s'emballer trop tôt. On va marquer une deuxième petite pause et puis on revient avec les questions et une petite séquence bonus qu'on a gardée pour la fin de cette émission. Fourth and two, McCaffrey's gonna pass, and wide open Martinez! How about it? Roll the dice and cash in, Panthers! Donc, comme la dernière fois, on vous avait demandé si vous aviez des questions que vous aimeriez voir traitées dans ce podcast. On en a reçu deux, en plus de celles qu'on a évoquées tout à l'heure sur les joueurs non draftés. On avait une question de Frédéric qui demandait si la meilleure attaque était-elle la défense. Je pense qu'il veut dire par là, est-ce que c'est par la défense que les Panthers vont se reconstruire une identité et même une nouvelle dynamique dans les années à venir?
Oui, ben on dit souvent defense wins championships, mais on a aussi, ouais. Enfin, et puis on a vu par cette draft qu'en prenant uniquement cette premier tour des joueurs défensifs. Ben, ça veut forcément dire qu'on construit côté défense, même si on a quand même pas mal de... Enfin, on a aussi des jeunes en attaque, donc ça veut pas dire qu'on délaisse l'attaque. Ouais, moi je pense qu'il construit sur la défense, et puis construire sur la défense, c'est un bon moyen d'instaurer une mentalité de combattant un peu dans l'équipe aussi. On est un peu obligé dans la mesure où on avait une tonne de trous dans la défense. Donc je trouve pas ça étonnant qu'on s'intéresse à la défense, et c'est comme ça qu'on va se reconstruire, je pense.
Voilà, faut qu'on commence la reconstruction quelque part, et on voit bien entre free agency et draft comment ça s'est entre guillemets ancré sur chacun des deux événements. On passe vraiment là sur une défense qui va être du coup énormément rajeunie et pas encore d'expérience, mais oui, on va passer vraiment par une construction de la défense sur la profondeur, parce qu'on en a besoin. Ce sera que du bon pour les années suivantes, notamment l'an prochain si on part plutôt sur un choix offensif au premier tour par exemple. Mais comme dit Mathieu, voilà, instaurer une mentalité défensive, on a plus Luke Kuechly, mais je trouve ça un peu un choix intéressant.
Dernière question qu'on avait reçue de Besta qui nous demandait si on avait des nouvelles de Cam Newton, même s'il était plus dans le roster. Toujours fait adjoint, hein, Cam Newton, a priori aucune touche. Pour une autre équipe, et c'est vrai que les quelques points de chute potentiels qui avaient été évoqués avant la draft, les portes se sont a priori refermées, puisque des clubs comme Miami ou les Chargers qui avaient été évoqués ont drafté des quarterbacks au premier tour, donc a priori c'est pas dans ces destinations-là que Cam Newton devrait refaire surface.
Oui, et puis on voit bien, il y a comme avec les Saints qu'on signait hier, du coup Jameis Winston. Cam, là, il va un peu attendre, entre guillemets, c'est un peu triste à dire, mais peut-être la blessure d'un quarterback dans une équipe qui peut jouer le championnat, ou c'est un joueur qui monte beaucoup d'envie, donc on se pose, entre guillemets, pas trop de questions à savoir quand est-ce qu'il trouvera, mais plutôt quand est-ce qu'il trouvera son poste.
Ouais, moi, ça m'inquiète pour lui, quand même. Les portes commencent à se fermer, heureusement, la saison va peut-être prendre plus de temps que d'habitude à démarrer, donc ça peut éventuellement lui laisser plus de temps, même si du coup, ça lui complique plus la tâche qu'autre chose, en fait. Là, ça semble assez compliqué qu'il ait un poste de starter la saison prochaine, et pour moi, c'est scandaleux que Cam Newton soit un backup au mieux dans la NFL, en fait. Ce sera clairement le meilleur backup de la NFL, quoi. Et c'est pas là qu'il devrait être.
Très bien. De toute façon, c'est une situation qu'on va évidemment continuer de suivre, hein, et on va surveiller une éventuelle signature de Cam Newton dans une autre équipe dans les mois qui viennent. Dernière petite séquence, on va se repencher sur la draft 2017 avec une rubrique qu'on a appelée œil de lynx, œil de taupe. Et donc, ce qu'on avait envie de faire, nous, là, c'était de regarder sur cette draft-là et de se dire, alors pas forcément chez les Panthers, mais est-ce qu'il y a des joueurs où à l'époque on s'était dit, voilà, ce joueur-là, ça va être un crack, il faut le surveiller, ça va devenir un excellent joueur, et où on a vu juste, et à l'inverse, des joueurs où on s'attendait aussi à beaucoup, et où pour le coup, on est très déçu, et on s'est planté, on peut le dire, hein. Donc j'ai envie de commencer par toi, Thomas, parce que il y en a un qui nous concerne, et vas-y, c'est ton moment, tu peux te lancer des fleurs, Tu l'avais vu depuis,
ouais.
Bien avant tout le monde, donc vas-y, c'est ton moment, fais-toi plaisir.
J'étais à l'époque, ouais, en 2017, on est retombé pour l'anecdote en fait, Guillaume, sur les premiers messages quand on a commencé, quand on parlait sur notre discussion privée. Et à l'époque, j'avais regardé pour la première fois les matchs de Stanford sur une bonne partie de la saison. Et CMC m'avait vraiment bluffé. C'était vraiment un coup de cœur, mais énorme, surtout le match du Rose Bowl en fait, qui comment dire, ça fait un beau catalogue de ce qu'il est capable de faire. Et du coup, j'en avais parlé à Guillaume, et à l'époque c'était au moment où on l'annonçait milieu de deuxième tour. Je me rappelle quand on faisait les mock drafts, en général on essayait de l'avoir en début de deuxième, mais j'avais été très content quand même de voir qu'on l'avait pris en premier tour. Et donc finalement un joueur qui s'est totalement avéré payant pour nous et maintenant aussi payant pour lui d'ailleurs. Je dis mon joueur est de top tout de suite.
Bah du coup oui, tant qu'on y est, lâche ton joueur œil de taupe.
Ah, œil de taupe. Mon côté Stanford a peut-être un peu trop joué sur le coup. Pour le premier tour, j'étais très partant pour Solomon Thomas, le defensive end de Stanford. Il était parti choix numéro 3 à San Francisco, et c'est un joueur en fait que j'attendais énormément de choses de lui. La production, les chiffres affichés ne sont clairement pas ceux attendus, mais je tiens quand même à dire que si on pouvait le récupérer, je ne serais pas non plus le dernier des mécontents.
Donc il y a eu des rumeurs, je crois, l'an dernier, que les 49ers étaient éventuellement prêts à lâcher Solomon Thomas, et tu as été un des premiers à nous dire « Ah, il faudrait qu'on aille le chercher, je suis pas contre ». Donc, comme quoi, tu n'as pas encore perdu tout espoir pour ce joueur. Pour ma part, un autre joueur sur qui j'ai pas encore perdu tout espoir, même si c'est vrai que jusque-là, il a pas montré grand-chose, c'est mon œil de taupe à moi, c'est O.J. Howard, le tight end des Bucks. C'est vrai que j'étais quand même très très chaud sur lui, et j'en avais fait une des cibles que j'aurais pourquoi pas bien voulu voir aux Panthers. Et c'est vrai que bon ben là sur ces trois premières saisons, il a pas montré grand chose. Alors peut-être qu'avec l'arrivée de Tom Brady, ça va changer, mais bon, vu que le Gronk est arrivé aussi, ça va peut-être aussi diminuer le nombre de cibles qu'il pourrait voir. Donc on va dire que j'ai peut-être pas encore aussi confiance que toi en Solomon Thomas pour voir le revival et retrouver enfin O.J. Howard, mais bon, voilà, je vais quand même garder un œil dessus, on sait jamais.
Surtout que voilà, quand Tom Brady est arrivé chez les Buccaneers et qu'on a entendu parler du possible trade de Rob Gronkowski qui s'est concrétisé très vite, on parlait d'un échange possible entre Gronkowski et Howard qui ne s'est pas fait finalement, mais du coup, on peut se demander est-ce que Howard pourra entre guillemets revivre avec Brady. Ou alors, est-ce que pour lui, ce sera la case trade de notre équipe pour essayer de rebondir?
Peut-être que les Bucks n'ont pas encore complètement perdu espoir en lui, parce qu'il me semble avoir vu, juste avant l'enregistrement de cette émission, qu'ils avaient activé l'option de cinquième année sur lui. Donc peut-être ils y croient encore, au moins que ce soit pour, comme tu le dis, effectivement, pouvoir se donner une année de plus pour l'échanger. Le côté œil de lynx... Alors c'est vrai que j'étais très très chaud aussi sur Jamal Adams au premier tour, que les Jets nous ont pris deux choix avant la sélection des Panthers, mais surtout le joueur que moi j'attendais et que j'espérais surtout si on prenait pas un running back au premier tour, c'était Alvin Kamara. J'en attendais beaucoup et c'était plutôt la bonne pioche parce qu'il est tombé je crois au troisième tour en plus, donc plutôt bonne pioche pour nos amis de la Nouvelle-Orléans. Sur ce coup-là, je pense qu'ils sont pas mécontents de ce choix. Et je suis obligé quand même, même si bon, c'est pas vraiment pré-draft, donc j'ai pas voulu le mentionner là, mais je suis obligé de mettre un petit message pour Harrison Butker, hein, le butt kicker qui a été sélectionné au septième tour. Voilà, moi c'est mon petit chouchou, hein, je l'ai jamais caché. Donc voilà, champion avec les Chiefs en février dernier. Donc je suis très content pour lui, même si c'est vrai que ça m'a fait du mal qu'on le garde pas. Mathieu, toi, alors t'étais pas encore avec nous à l'époque, t'avais pas encore rejoint le groupe d'admin du compte, mais est-ce que t'avais un prospect que t'attendais énormément et qui t'a rassuré et qui a conforté ton idée, et un autre qui à l'inverse t'a déçu?
Bah alors moi par contre j'ai que des choix lié aux Panthers en fait, parce que 2017 c'était ma deuxième draft, j'avais pas fait de, je faisais pas d'analyse pré-draft à cette époque-là. Et je me souviens bien de ma réaction quand on a à l'annonce des joueurs choisis. Bon, si je peux me débarrasser de l'œil de lynx de suite, j'avoue que dès le début notre second tour Curtis Samuel il m'a beaucoup plu. Après je peux pas mentir et je vais pas dire que je m'attendais à ce qu'il soit en quelque sorte aussi bon maintenant, mais voilà, il me plaisait bien. Par contre, sur le reste de la draft, j'ai été le pire general manager possible, et j'étais donc sur mes œils de top, j'en ai récupéré deux. J'étais tombé amoureux de Cornelder, le cornerback, pourtant c'est un cinquième tour, je sais même plus pourquoi à l'époque, mais c'est, pour moi c'était un crack, et il allait être indéboulonnable dans l'équipe. Au final, il a fait un tour en practice squad, on l'a lâché, on l'a récupéré. Et le deuxième, c'est Austin Duke. Alors là, c'est encore pire parce que joueur non drafté. Et pour moi, c'était, ça allait être notre nouveau Ted Ginn sans les drops. Et ouais, j'étais complètement fou de lui. Je me souviens plus vraiment pourquoi. Au final, on l'a même pas regardé. Il a essayé un peu de CFL, il est pas resté. Là, il était en XFL. Je crois qu'il faisait surtout du special teams et des returns. Donc vraiment loin de là où je l'imaginais en wide receiver. Un peu gadget comme Samuel en fait.
On s'est basé sur la draft de 2017 pour avoir un petit peu de recul, mais n'hésitez pas à nous dire si vous aviez des joueurs comme ça que vous attendiez, ou que voilà, vos œils de lynx et œils de taupe respectifs pour cette draft de 2017. Et puis si c'est un thème qui vous plaît, on n'hésitera pas à le refaire dans les prochaines éditions pour les prochaines drafts. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Il nous reste à vous remercier d'avoir suivi cette émission. Merci à vous, Mathieu et Thomas, de m'avoir accompagné sur cette émission.
Eh bien, merci à toi.
Avec plaisir, merci à toi.
Et puis, comme la dernière fois, n'hésitez pas, si vous avez des retours, des remarques ou des questions qui restent après cette émission, on se fera un plaisir d'y répondre. On vous donne rendez-vous dans une prochaine émission. On sait pas trop quand, peut-être... une émission de preview avant la reprise de la saison. On verra un petit peu suivant l'évolution des dans les mois qui viennent. Et puis en attendant, on va continuer à suivre l'actu des Panthers sur le compte, et on vous dit à très bientôt.
À bientôt.
Bye bye.